Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Connaissez-vous le point commun entre Aristote et Raymond Queneau, entre Cyrano de Bergerac et Albert Einstein, ou entre le peuple Dogon et Edgar Allan Poe? Eh bien, ils ont tous proposé un récit de l'univers. Dans un ouvrage paru en octobre 2012, Variations sur un même ciel, plus d'une vingtaine de chercheurs nous présentent autant de textes issus de la mythologie, de la littérature, de l'histoire des sciences, voire de la bande dessinée, qui tous éclairent notre vision de l'univers d'une lumière différente. Nous avons décidé d'y consacrer une série de 4 émissions. Pour le premier épisode de cette série, l'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bideau du CEA est notre invité. Jean-Marc Bonnet-Bideau, bonjour.
Bonjour.
Alors, le texte que vous signez dans Variations sur un même ciel met en lumière une façon de concevoir le monde qui est très éloignée de la nôtre, ici et maintenant en Occident, puisqu'il s'agit de la cosmogonie, Dogon. C'est pas facile à dire. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le peuple Dogon?
Bien sûr. Le peuple Dogon donc, est au Mali, au nord-ouest du Mali, à peu près à 600 km de Bamako. Et la particularité des Dogons, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, c'est qu'il est resté... Ce sont restés une population assez isolée, à l'écart notamment de la grande route de Bamako à Tombouctou, qui est la route des caravanes anciennes. Et on pense qu'il est installé, d'ailleurs on a des preuves indirectes, il est installé dans ce qu'on appelle maintenant les falaises de Bandiagara depuis le XIIIe siècle. Et donc la particularité, c'est que c'est une population qui est restée relativement isolée et du même coup a préservé des traditions et des spécificités qui le différencient évidemment des autres populations environnantes de l'Afrique.
Alors il y a notamment un superbe récit cosmogonique que vous nous présentez dans ce livre. C'est un texte qui s'intitule Le Renard Pâle, d'ailleurs, de façon très, très poétique. Est-ce que vous pouvez nous le résumer, nous le raconter? Que raconte-t-il, ce texte?
Oui, alors d'abord, peut-être, je vais peut-être dire de quoi il est issu, parce que c'est très important. Il est issu d'une étude ethnologique qui a duré plus de 60 ans et qui a été menée par deux ethnologues français, Marcel Griot et Germaine Dieterlin. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Germaine Dieterlin à la fin de sa vie. Il faut bien se rendre compte, cette dame qui est morte à 96 ans avait débuté ses études en 1937 chez les Dogons. Et c'est grâce à elle et à Marcel Griot que nous connaissons autant de choses. C'est parce qu'elle a étudié pendant 60 ans la même population. Elle était même la mémoire des Dogons, puisque avec sa longévité, elle était bien plus évidemment âgée que la plupart des Dogons. Elle savait plus de choses sur l'histoire des Dogons que les Dogons eux-mêmes par certains aspects. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est une histoire un peu française, les Dogons. Mais c'est un espèce de coup de projecteur qui a été braqué sur cette population. Il faut bien se rendre compte que ce nous raconte, nous pouvons raconter des Dogons, peut-être si les études avaient été menées de la même façon, on pourrait le raconter sur d'autres populations d'Afrique. Je veux tout de suite souligner que les Dogons ne sont pas une exception absolue en Afrique. Alors, pour en venir à leur, effectivement, ce qu'on appelle leur cosmogonie, c'est vrai qu'elle est étonnante parce qu'elle est très variée et très construite. Alors, on va difficilement, c'est difficile de la résumer, mais en gros, bien sûr, il y a une création du monde avec un esprit créateur qu'on appelle Ama, alors qui a une dénomination. Alors, on peut considérer que c'est Dieu, mais évidemment, c'est, dans l'esprit des Dogons, je crois que c'est pas ça, c'est un principe créateur. Et ce qui est amusant chez les Dogons, c'est qu'il y a deux créations du monde. Une première création qui est avortée, qui était la tentative de faire le monde en agglomérant différentes choses. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Et ce fameux Ama est obligé de reprendre tout à l'envers, d'une certaine façon, parce qu'il va partir de choses essentielles, et notamment de la chose la plus essentielle dans la cosmogonie des Dogons, c'est une graine, et c'est pas par hasard, évidemment, pour des populations qui sont si préoccupées de leur subsistance, la graine de peau, qui en fait est le fonio, et dans cette graine-là, pour les Dogons, il y a toute l'immensité du monde. Tout va éclater à partir de la graine de fonio, et va se répandre dans l'univers, et va se construire. C'est très amusant, puisqu'on a les deux tentatives, finalement, de faire un univers à partir d'une matière diffuse et de faire un univers à partir d'une matière dense, qui est en fait la base de nos réflexions cosmologiques actuelles encore. Finalement, on n'a pas tout à fait la réponse. Alors, après, il y a des épisodes. Alors, on appelle ça le renard pâle parce que le renard pâle, donc c'est effectivement un renard qui est en Afrique et qui, évidemment, a un pelage plutôt blanc. Parce que, en fait, dans la cosmogonie des Dogons, c'est l'intrus. C'est-à-dire que le fameux Ama, qui est tout puissant, n'est pas tout à fait tout puissant. Il a contre lui un espèce de troublion qui est ce renard pâle et qui essaie de tout foutre en l'air dans la création. C'est très amusant et c'est comme ça que c'est raconté. Donc en fait, ce fameux principe créateur essaie toujours de créer des choses par paire. La gémellité est extrêmement importante chez les Dogons. Et le renard pâle va refuser, va sortir de son placenta avant que sa jumelle ait été créée. Et du coup, il détruit l'ordre du monde que voulait créer ce principe créateur. Et ensuite, il y a un jeu, évidemment. Le renard pâle va être puni, il va être exilé, il va effectivement rester tout le temps en train de tourner en cherchant sa jumelle. Et cette particularité est apparue évidemment aux ethnologues comme assez amusante finalement, parce que le créateur n'est pas tout puissant chez les Dogons. Donc. Alors après, évidemment, cette graine en fait va créer toute la création évidemment, et elle est associée à quelque chose de particulier qui est à l'étoile Sirius. Et c'est pour ça qu'après, il y a une contrepartie astronomique à la cosmogonie Dogon, c'est qu'effectivement, on la pense basée sur des observations astronomiques.
Alors, on va y revenir tout de suite. Ce renard pâle, donc Ogo, dans cette cosmogonie Dogon, crée le Soleil, crée la Lune, toujours dans cette quête de sa jumelle qui n'est pas encore née. Alors, tout ça nous éloigne beaucoup quand même du CEA, notamment des étoiles et de l'astrophysique de haute énergie dont vous êtes spécialiste. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce texte et vers le peuple Dogon ?
Alors, évidemment, c'était tout à fait autre chose au départ. C'était une préoccupation que j'avais dans mes études. Évidemment, j'étudie plutôt la fin de la vie des étoiles, donc ces objets denses qui sont issus d'une explosion d'étoiles, parmi lesquels, évidemment, on cite les naines blanches, les étoiles à neutrons. Et il se trouve, autour de l'étoile Sirius, se trouve une petite naine blanche. Et donc, j'avais été amené à l'étudier, et ayant fait beaucoup de littérature, un jour, je suis tombé sur un article assez étonnant, daté de 1950, au Journal des Africanistes, évidemment signé de Germaine Diterlin et Marcel Griol, et ça s'appelait « Un système soudanais de Sirius ». Et dans cet article, publié évidemment dans un journal de recherche, eh bien, les deux ethnologues faisaient état du fait que les Dogons connaissaient que l'étoile Sirius n'était pas une étoile simple, toujours la gémellité, mais une étoile double, et qu'il y avait un compagnon autour de l'étoile. Alors l'étoile Sirius s'appelle Sigitolo, l'étoile du Sigi, et à côté de cette étoile, il y a donc Potolo, l'étoile du pot, l'étoile du Fonio, qui est en fait une étoile très dense. Alors, c'est une énigme à l'heure actuelle encore, hein, parce que finalement, nous n'arrivons pas à comprendre comment les Dogons, qui faisaient bien sûr une astronomie à l'œil nu, ont pu voir une petite étoile qui n'est accessible qu'au grand télescope, en fait. Donc, cette énigme reste un petit peu pendante. Elle nous éloigne et nous rapproche en même temps de la cosmogonie. Finalement, moi, je me suis fait une idée d'une explication possible, mais bon, elle est un petit peu... C'est qu'on pense par ailleurs qu'autour de Sirius, peut-être il y a 2000 ans, il y a eu un changement physique de l'aspect de l'étoile. Et donc, je suis arrivé à l'idée que peut-être que les Dogons, par simple intuition, voyant un effet se produire auprès d'une étoile, ont considéré qu'il y avait une cause, qu'il y avait quelque chose d'autre qui l'avait pu le provoquer. Et on sont arrivés à l'idée d'une gémellité de l'étoile. Ensuite, après, par pure coïncidence, ils ont choisi de penser que cette étoile était très dense, l'équivalent de ce pot de la création, plutôt finalement une coïncidence. Donc on a une espèce de conjonction à la fois malheureuse et bienheureuse, parce que ça m'a amené à cette étude, mais qui est du domaine plutôt du fortuit. En revanche, ce qu'on a appris des Dogons, c'est qu'effectivement, ils observaient réellement le ciel, ils ont observé réellement Sirius, donc effectivement, c'était très intéressant comme ouverture. Le voyage que j'ai fait en 1998, donc Germaine Diterlin avait 95 ans, et elle était plus dynamique que nous tous, au Mali, nous a prouvé, puisqu'elle avait en fait repéré à l'écart du village de Sanga, qui est le village principal chez les Dogons, un endroit où les Dogons disaient observer Sirius. On ne comprenait pas exactement comment et pourquoi, ce n'était que des rochers. Et en fait, un simple repérage des lieux nous a prouvé que, bien sûr, du point de vue d'où il se plaçait, sous une espèce de grande dalle de pierre, en regardant deux rochers, eh bien, on s'est aperçu que ces deux rochers montraient les directions à l'horizon du lever de l'étoile Sirius et du Soleil au moment où ils se lèvent pratiquement ensemble, ce que nous appelons nous le lever héliaque d'une étoile, et qui marquait le début et l'année chez les Dogons comme chez les Égyptiens. Et cette espèce de contrepoint astronomique a été très intéressant parce que on a, bien sûr, je vous ai raconté en quelques mots la cosmogonie Dogon, évidemment ça, c'est purement des récits mythologiques, et on a tendance à penser que ces choses-là sont tellement détachées du reste. Or, en général, la cosmogonie, la cosmologie finalement se base quand même sur l'observation des étoiles et sur un raisonnement de l'univers. Ce n'est pas juste un récit plaqué.
Ce n'est pas un pur récit mythique.
Exactement. Inventé. Et c'est chez les Dogons, on a donc pu le prouver par évidemment des mesures assez simples d'orientation, mais qui nous ont prouvé qu'il y avait donc là-bas un observatoire, fait de rochers, hein, mais qui permettait aux Dogons de vérifier le retour de l'année et la rythmicité de l'année. C'était très intéressant parce que jusqu'alors, et pourtant les études ont duré pendant 60 ans, personne n'avait pu en fait confronter un peu le point de vue astronomique et le point de vue ethnologique. Germaine Dittane m'a permis de faire ça et effectivement on était très heureux puisque par ailleurs ça a bien sûr rendu plus réel et plus vraiment véridique leurs comptes rendus qui ont été attaqués. Par ailleurs, il y a une longue histoire sur l'ethnologie française et la façon dont les gens ont pratiqué. Ce sont des chercheurs, les ethnologues. Bien sûr, pour nous, des sciences dures, ça paraît un peu bizarre parce que ce sont des récits de personnes. Mais au fond, ils ont une méthode. Ils avaient consigné tout ça. D'ailleurs, ça figure dans un très beau livre qu'avait écrit Marcel Griot, s'appelle « Dieu d'eau », que j'engage tout le monde à lire parce que c'est en collection de poche et ça nous donne ces interviews qu'il a fait lui-même. Et à l'issue de ça, c'était tellement merveilleux, tellement extraordinaire ce que racontaient ces Africains qu'on a voulu y croire qu'il y avait beaucoup d'inventions de la part des ethnologues. C'était d'une certaine façon une injure à la démarche scientifique. Et l'ethnologie est une démarche scientifique. Et c'était difficile pour les ethnologues de se défendre finalement. Et cette simple contrepoint finalement objectif de la science dure, on pourrait dire, de ces alignements de rochers, ont montré que, eh ben non, effectivement, ils avaient bien recueilli, simplement ils n'avaient pas réussi à faire le lien avec l'autre réalité plus tangible, mais ça a donc crédibilisé le discours ethnologique et j'étais très heureux que Germaine Dittane puisse voir ça de son vivant, parce que l'année d'après de notre voyage, elle est malheureusement disparue et c'est une mémoire qui a disparu avec elle.
Alors vous notez d'ailleurs dans votre commentaire de ce texte magnifique que les Dogons ont pâti, enfin en tout cas la cosmogonie Dogon et le travail de ces deux ethnologues a pâti aussi du fait que, ayant pressenti entre guillemets ou imaginé que Sirius avait un compagnon, une foule de mythes incroyables, extraterrestres, etc., sont greffés sur cette étude. Ça a beaucoup contribué à décrédibiliser toute cette histoire.
Exactement. C'est bien dommage, mais effectivement, bon, vous savez comment certaines personnes sont accrochées à des choses extraordinaires. Donc en fait, comme il n'y avait pas d'explication rationnelle au fait que les Dogons puissent voir le petit compagnon, eh ben un écrivain américain, Richard Temple, dans les années 70, a fait paraître un livre, je ne sais plus comment il s'appelait, Le mystère de Sirius, et dans lequel l'hypothèse principale, c'était que les Dogons avaient été visités par des extraterrestres et par là même avaient connu. Alors évidemment, ça a troublé beaucoup le débat, ça a effectivement fait que du coup, une suspicion a été braquée sur cette quête ethnologique qui avait été faite, et ça n'a pas du tout éclairci. Moi, je l'ai repris, le problème vraiment du point de vue scientifique pur, puisque j'étais préoccupé. En fait, il s'est trouvé que pour expliquer le changement de couleur dont on parlait auparavant, j'ai fait l'hypothèse d'un troisième corps autour de Sirius. Donc, j'ai été obligé d'aller observer Sirius, de faire effectivement un bilan de tout ce qui avait été fait sur les compagnons potentiels et vérifiés de Sirius. Et en fait, ça m'a bien prouvé qu'effectivement, il n'y avait pas de réponse scientifique à l'heure actuelle, mais qu'il fallait le faire par un autre biais, par le biais de l'intuition. Vous savez que, par exemple, un philosophe comme Kant avait eu l'intuition des galaxies avant qu'on les ait connues. Donc l'intuition humaine joue aussi dans beaucoup de choses, même si elle n'est pas matérialisée par des découvertes et des choses vraiment tangibles et quantifiées. Donc c'est vrai que ça a beaucoup... Alors on voit au coup, c'est vrai que si on regarde, si on tape de Sirius et Dogon sur Internet, c'est horrible. Il y a des tas de théories les plus fumeuses les unes que les autres qui évidemment recouvrent une réalité. J'engage les gens à lire effectivement le livre qui par ailleurs effectivement fait tout un tour sur les cosmogonies, parce que en fait, au fond, on peut quand même retracer très très précisément la façon dont on a recueilli ces connaissances, ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous disent pas, et c'est très très intéressant. Et encore une fois, je souligne que c'est dommage finalement qu'en Afrique il n'y ait pas eu plus d'études comme ça, parce que très certainement on aurait une variété juste dans ce continent-là, puisqu'il y a quand même des populations assez différentes, une variété de perceptions de l'univers, de la formation des choses, de l'histoire du monde, qui est relativement extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous dites en introduction, finalement, de votre texte. Cette histoire des Dogons, aussi belle soit-elle, c'est l'arbre qui cache la forêt, d'une certaine manière. Il y a sans doute beaucoup d'autres choses à découvrir en Afrique d'intéressant.
Bien sûr, et c'est ce que, finalement, un petit peu ce que je commence un petit peu à faire. Alors, évidemment, moi, je suis toujours très, très préoccupé de partir sur des textes tangibles, sur des choses existantes. Donc, vous le savez qu'en Afrique, bien qu'on le dise trop, de façon trop globale, ce n'est pas que de la tradition orale. Je n'ai pas souligné, d'ailleurs, chez les Dogons, une particularité très très importante. Parce que pourquoi on peut crédibiliser le discours Dogon ? Pourquoi il s'est maintenu aussi précisément de génération en génération ? Parce que les Dogons ont quatre niveaux différents de parole adaptés à chaque chose dont on veut discuter. Et le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le Sigiso, la langue secrète du Sigi, qui n'est réservée qu'à des initiés. Et ces discours cosmologiques ont été transmis d'initié en initié pour éviter justement qu'ils se déforment par une espèce de téléphone arabe. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que par ce biais-là, ils conservent une réalité très tangible et très précise au-delà des siècles. Ils sont au Mali depuis le XIIIe siècle. Et donc, on a eu des preuves puisqu'ils font des grands masques tous les 50 ans, 60 ans. Il y a une cérémonie très particulière associée à l'étoile Sirius, qui est le début d'un nouveau cycle qu'on appelle la cérémonie du Sigi. C'est à l'échelle d'une génération, donc c'est juste assez pour initier les gens derrière. On sort et on fait des grands masques, et la raison pour laquelle on sait qu'ils sont là depuis le XIIIe siècle, c'est que cette cérémonie a lieu tous les 60 ans, et on a trouvé 13 masques qui sont enterrés ensuite dans les cavernes, et donc 13 fois 60, ça fait à peu près 800 ans, et donc on sait qu'ils sont depuis le XIIIe siècle. C'est très très amusant, mais ça vous prouve qu'effectivement cette population a gardé des traditions, et ce discours cosmogonique n'est pas de la dernière pluie, on pourrait dire. C'est vraiment un discours qui a été... Ça leur est nécessaire, j'imagine, pour concevoir l'importance des graines, l'importance des rythmes vivants. Ils sont liés à des aléas climatiques. Il faut bien planter non seulement au bon mois, je dirais presque la bonne semaine parfois, parce qu'évidemment, là, il y a très très peu de terre, très très peu d'eau. Et donc, on comprend bien que des populations africaines soient très préoccupées de reconstituer très très vite là où elles s'installent les grands rythmes cosmiques pour pouvoir effectivement simplement subsister.
Alors, vous l'avez noté, cette cérémonie du Sigi est vraiment intrinsèquement liée à Sirius. Est-ce qu'on a une idée de la prééminence, de pourquoi Sirius a cette prééminence dans la cosmogonie Dogon ?
Alors, effectivement, Sirius est très exceptionnel, puisqu'on raconte dans la cosmogonie que quand les hommes sont descendus sur la Terre, effectivement, et l'homme a été créé, il y a quatre ancêtres, quatre familles d'ancêtres qui ont donné toutes les lignées, eh bien, ils sont descendus dans l'obscurité, le soleil n'était pas encore né, enfin, dans leur cosmogonie. En revanche, c'était éclairé par Sirius. Et dès qu'ils se sont posés sur la Terre, à ce moment-là, le soleil a surgi. Et a eu lieu ce qu'ils appellent le premier matin du monde. Et donc, ce phénomène qui est décrit par des mots poétiques reflète la réalité dont je vous parlais tout à l'heure, le lever conjoint de l'étoile Sirius et du soleil, ce fameux lever iliaque. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est la base. Alors après, on est très intéressé par le parallèle qu'on peut faire entre ce récit, ce fameux lever iliaque chez les Dogons, et ce qu'on le connaît des anciennes traditions égyptiennes, bien sûr bien plus anciennes que les Dogons, qui effectivement avaient aussi basé leur calendrier, et le fameux lever iliaque était le début du calendrier égyptien. Alors les hypothèses sont claires, et maintenant elles restent à démontrer. Très probablement, on peut reconstituer que dans l'Afrique ancienne, bien moins aride qu'à l'heure actuelle, il y avait des voies d'eau, il y avait des voies terrestres, mais aussi des voies d'eau. Donc la communication de l'Égypte, qui est quand même à l'extrémité, nord-est de l'Afrique, elle a sans doute irrigué de ses connaissances, puisqu'on parle pour l'Égypte de moins 2000, moins 1500, donc évidemment il y a un grand temps, tout ça a irrigué l'Afrique, et les Dogons qui sont migrants, dont on ne sait pas d'où ils sont venus réellement, qui sont installés il y a un certain temps, mais qui avant venaient d'ailleurs, ont sans doute porté avec eux ce savoir. Mais alors, ils l'ont réadapté, il a évolué, mais il ne peut pas y avoir une coïncidence aussi étonnante que ça, que deux populations qui finalement ont été en contact. Je pense que l'Afrique a été une terre de contact et de transport. Eh bien, il est très probable qu'effectivement, ça soit issu de cette astronomie égyptienne ancienne, qui par ailleurs, nous connaissons très très mal.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Bonimido d'avoir accepté notre invitation. J'invite tout le monde à lire évidemment dans Variations sur un même ciel ce texte superbe, Le renard pâle, et le commentaire que vous en faites à la suite. Je vous remercie de votre attention. Ce reportage était présenté par David Fossé, réalisé par Xavier Rémoun. À très bientôt sur Ciel Espace Radio pour le deuxième épisode de cette série consacrée aux mille et une manières de contempler et de raconter l'univers. We'll be right back.